Si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse, chapitre 19. On va lire les versets 7 à 10. Apocalypse 19, versets 7 à 10. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors, si vous voulez vous asseoir. Comme je vous ai raconté un petit peu tantôt, j'ai passé pas mal de temps cette semaine à étudier ce passage-là. Puis plus je fouillais pour trouver des choses, plus je trouvais des richesses. Là, je me disais, ben là, je n'aurais pas le temps de tout dire ça aujourd'hui, mais là, il fallait que je choisisse mes partages. Mais c'est un passage d'une très grande beauté. Quand on voit, surtout la chose qui est nécessaire quand on lit ça, on parle des noces de l'agneau. Aujourd'hui, on connaît c'est quoi une noce. On a tous été à une noce dans nos vies. Il y a plusieurs, des fois. Mais les noces qu'on vit en Occident de nos jours et les noces qu'il y avait à l'époque des Juifs, à l'époque, c'est complètement différent. Et la raison pour laquelle le mot « les noces de l'agneau » sont venues, c'est vraiment, faut que tu prennes les noces des Juifs à l'époque, tu regardes comment ils les faisaient, et tu compares avec toute l'histoire de Jésus-Christ, avec son Église. Quand tu fais ça, tu découvres de très, très grandes richesses et d'une très, très grande beauté. Alors, bien entendu, aujourd'hui, pour bien apprécier le passage que nous étudions aujourd'hui, on se doit de le situer dans l'ensemble des enseignements de la Bible concernant le mariage et les fiançailles telles que compris et pratiquées par les Juifs de l'époque du Christ. Très important parce que, si vous vous souvenez des Évangiles, quand on parle de Christ, on parle de Joseph et Marie. Ils étaient fiancés. Mais pour eux, les fiançailles de cette époque-là n'avaient rien à voir avec les fiançailles d'aujourd'hui. Fiançailles d'aujourd'hui, c'est comme un engagement. Des fois, il peut être très sérieux, mais d'autres fois, plus ou moins. Mais à l'époque, te fiancer, quand tu étais fiancé, tu étais comme marié. Et il y avait une période où le marié n'avait pas... Il rencontrait sa future beaucoup plus tard. Et on va voir de quelle façon ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui se compare avec l'œuvre de Christ, avec son Église. Et c'est là qu'on allume et on se dit, mon Dieu, c'est beau. C'est beau comment le Seigneur... Parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin d'expliquer ça aux Juifs. C'est à l'époque où l'Apocalypse était écrit, tout le monde qui comprenait, quand il parlait des noces de l'agneau, pour eux, c'était... tout dans leur esprit, très présent. Ils comprenaient toutes les étapes, ils comprenaient exactement, mais plus nous aujourd'hui. On peut lire ce passage-là et rien voir de comment le Seigneur considérait, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël comme son épouse, et comment, dans le Nouveau Testament, le Christ, Jésus, considère son Église comme son épouse. Et tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer jusqu'à la fin, il y a un parallèle à faire. Si on ne le fait pas, on manque un gros morceau de la bénédiction de ce passage-là. Alors, on vient d'en parler. Dans le Nouveau Testament, ça nous parle de Christ comme l'époux et de son Église comme l'épouse. Donc, on est comme Église, les enfants de Dieu, on est l'épouse de Christ. Alors, ce qui convient aussi de remarquer dans le passage qu'on est en train d'étudier, c'est de le relier avec ce qui s'est passé aussi dans les passages précédents. Donc, ça arrive, les noces de l'agneau sont venues, mais on est dans le contexte que Dieu a jugé la grande prostituée, on est dans le contexte d'un jugement. Et le jugement, c'est comme si le jugement s'arrête et ça nous dit « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, rendez gloire à Dieu, parce que les noces de l'agneau sont venues. » Très intéressant. Et aussi, on est dans le chapitre, à partir du verset 11, qu'on va étudier la semaine prochaine, de 11 à 21, là on va voir que, si on avait parlé de la grande prostituée, c'était l'aspect religieux qui avait séduit le monde, qui avait entraîné le monde dans toutes les vices possibles et imaginables. Mais on se demandait qu'est-ce qui arrivait avec la côté politique, le côté la Babylone la grande, mais la politique. Juste pour qu'on puisse aller voir qu'est-ce qui arrive pour satisfaire notre curiosité. Quand on va au verset 19 du chapitre 19, ça dit « Et je vis la bête ». La bête des Écritures, c'est toujours la politique. C'est l'aspect politique. Vous pouvez prendre une étude des Écritures, la bête, c'est toujours, quand vous allez dans Daniel, par exemple, on parle aussi des bêtes, c'est toujours l'aspect politique. Alors il dit, « Je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées, pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval, et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Très intéressant. Alors, on voit déjà dans le chapitre 19, là, on a une partie que c'est que Dieu invite les siens, son Église, les saints, à se réjouir. Et là, il nous amène le verset 7 à 10, où il nous dit « Les noces de l'agneau sont venues. » Et après, à partir du verset 11, on a vraiment la deuxième partie. Donc, tu as le jugement de Babylone la Grande. Après ça, tu as les noces de l'agneau. Et après ça, tu as vraiment le jugement de la bête. Très intéressant. On sait, tout le monde qui a déjà vu un mariage royal, je sais pas si vous êtes déjà arrêté à écouter ou à visionner un mariage royal. Tu sais, en Angleterre, la reine, ou quand elle a marié ses filles, ou son garçon, ou qui que ce soit. Ouais. Hey, c'est quelque chose, un mariage royal. C'est vraiment, là, quand on parle de décorum, on parle de majesté, on parle de beauté, on parle de richesse, on parle de... Ils en mettent plein la vue, comme on dit. Hein? Imaginez-vous si les hommes sont capables de faire de telles choses aussi somptueuses sur la terre, avec les moyens terrestres. Imaginez les noces de l'agneau. Ça va dépasser toute capacité d'imagination qu'on peut avoir. Alors, le commentateur, comme j'utilise pour... Il nous faisait part d'une chose que j'ai trouvée extraordinaire. Il dit « Les noces de l'agneau seront les plus grandes et les plus uniques et les plus magnifiques de toutes les noces du power eu sur la terre. » Pourtant, si on regarde les royautés, tu sais, les rois de la terre, il y en a qui en ont fait des somptueuses pour à peu près des feux d'artifice, des affaires, tu sais, des tables, c'est comme éblouissant. Mais lui dit, les noces de l'agneau vont être plus grandes et absolument uniques. Et il donne des raisons. C'est ça que j'ai voulu vous partager. La raison pour laquelle elle va être unique, la première raison, c'est qu'il n'y a jamais eu un époux avec une valeur comme celle de Christ. Les rois, des fois, ils se marient, mais souvent, c'est, bon, moralement, on pourrait peut-être douter de leur... Mais pas Christ. C'est l'époux le plus glorieux, le plus merveilleux, sans tache, on ne peut pas vraiment avoir une estime trop haute. Ça ne se peut pas. Même, je dirais qu'en général, on a une estime trop basse de qui est l'époux, Christ. Première raison pour laquelle c'est plus grand et absolument unique. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a jamais eu un roi de la terre ou une personne humaine qui est allée aussi loin dans l'humiliation, dans la souffrance, dans le sacrifice et dans ses accomplissements pour conquérir et mériter l'amour de sa bien-aimée. Tu sais, les rois de la terre, là, pour mériter la femme avec qui on vit, là. Est-ce qu'il aurait été aussi loin que Christ? Aller sur la croix, subir le châtiment du Père à leur place, les humiliations qu'il a eues, lui qui était Dieu lui-même, s'est incarné dans une chair d'homme, s'est humilié. C'est vrai qu'il faut s'arrêter à penser à ça si on veut vraiment apprécier l'image de Jésus-Christ comme l'époux. Il y a cette raison. La troisième, il dit, il n'y a jamais eu un fiancé avec un père aussi riche et qui a lui-même planifié une cérémonie et un banquet d'un tel face et d'un tel éclat. Tu sais, disons que le prince, il se marie avec une femme. Le père, pour organiser ces affaires-là, il faut que tu sois immensément riche. Mais Dieu, le Père, il n'a jamais eu un fiancé avec un père aussi riche. Quatrièmement, il n'a jamais eu un engagement aussi puissant et solide que le don du Saint-Esprit donné à l'épouse. Nous, on est l'épouse. Le Seigneur dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit, un gage qui va nous rendre jusqu'au bout. Un cadeau d'une ampleur telle, c'était inimaginable. C'est unique. Cinquième raison, il n'y a jamais eu une résidence aussi glorieuse préparée comme demeure où l'époux amènera l'épouse pour y vivre éternellement. Tu sais, dans le temps, le juif, il se mariait, là, il allait chercher la fiancée, il l'amenait chez lui, et là, il l'emmenait dans sa nouvelle maison qu'il avait construite lui-même. Ça pouvait être très bien. Mais la maison que le Seigneur nous a préparée, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Pensez-vous que la maison qu'un juif pouvait faire pour son épouse pouvait, en quelque sorte, être comparée avec celle que le Seigneur va nous donner au ciel? Fait que tout ce mariage-là, c'est quelque chose d'extraordinairement grand. Sixième, il n'y a jamais eu une réjouissance aussi grande, aussi grandiose. Elle sera transportée d'une joie extrême, durable et exubérante. Quand on va être rendu l'autre bord, dans le ciel, la joie, ça ne sera pas comme la joie comme quelqu'un qui épouse sa femme. Il y en a quelques-uns ici qui sont fraîchement mariés. On est content pour un bout de temps. Mais ça dure-tu? Oui, plus ou moins, plus ou moins. Je dirais qu'il y a des hauts et des bas. Mais pas la joie qu'on va connaître quand on va être rendu l'autre bord. Ça va être une joie constante, une joie exubérante. Ça n'arrêtera jamais. On va découvrir Dieu, Jésus-Christ, dans toutes ses facettes, dans toute sa richesse, dans toute sa beauté, et on n'en reviendra jamais. On va être tout simplement dans une joie qu'aucun marié terrestre n'a connue et ne connaîtra jamais non plus. Ça se compare. Bon. Et la dernière, il n'y a jamais eu de noces où les saints anges seront les témoins directs. Parce que là, on voit dans le contexte que les anges vont être les témoins. Il dit les noces de l'agneau sont venues, mais on sait par le contexte que les anges, c'était des anges qui disaient ça. La preuve que c'était des anges, parce qu'à la fin, il était tellement énervé, Jean, là, qu'il s'est jeté à genoux et il a voulu l'adorer. Alors, c'est là qu'on voit que l'être humain, des fois, il peut facilement glisser dans l'idolâtrie et se tromper. Alors, on va regarder le verset 7. Les noces de l'agneau. C'est là qu'on va voir, j'ai pris le temps de copier ce que j'ai trouvé dans un livre où on nous explique comment ça se passait une noce juive. Et c'est important parce que si on ne le fait pas, on ne comprend pas vraiment le sens du passage. Ou du moins, on le comprend plus pauvrement. Ici, au verset 7, il dit « Réjouissons-nous ». À qui il parle? Il parle aux saints. Il parle à ceux. « Réjouissons-nous ». Et faisons éclater notre joie. Moi, j'aime bien, c'est un beau verbe, l'éclater. Hein? C'est comme éclater, quand tu éclates, quand tu dis éclater de rire ou éclater. Quand on éclate, c'est comme... C'est intéressant. Faisons, réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire à Dieu. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. C'est qui son épouse? C'est nous. Ça veut dire que durant le temps, on va voir l'histoire du mariage, là. L'épouse s'est parée. Ça veut dire que le Seigneur s'est occupé de donner une belle apparence à son épouse, autrement dit. Alors, je vous lis ce que j'ai trouvé chez le pasteur William Hendrickson, qui nous donne des détails sur la signification du mariage dans la perspective sotériologique, perspective de salut. Alors, il prend le mariage juif et il fait un parallèle avec le salut de l'homme. On a été sauvés depuis toute l'éternité, il y a eu un temps d'attente, en tout cas, il explique tout ça. Je vous le lis parce que je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Il dit « Pour comprendre ce merveilleux passage, il faut nous remettre en mémoire la façon dont était célébré un mariage juif. On peut y distinguer plusieurs étapes. Tout commence par les fiançailles, qui étaient un lien bien plus fort que nos fiançailles occidentales. Les fiancés acceptaient les termes du mariage en présence de témoins et la bénédiction de Dieu était prononcée sur l'union. Dès ce moment, ils étaient considérés comme mari et femme. Un certain laps de temps s'écoulait alors avant la fête des noces, pendant laquelle le fiancé payait la dot au père de l'épouse, si cela n'avait pas déjà été fait. La dot se présentait parfois sous la forme de service rendu. Ensuite venait ce qu'on appelle la procession. La fiancée se préparait et mettait ses bijoux. Le fiancé, paré de ses plus beaux vêtements, se rendait vers la maison de la fiancée, accompagné de ses amis, qui chantaient et portaient des torches. La fiancée lui était confiée, et il la conduisait dans ce cortège jusqu'à la maison ou à la maison de ses parents, jusqu'à sa maison ou celle de ses parents. Puis avait lieu la fête des noces, qui incluait le repas du mariage. Si le fiancé venait de loin, la fête se déroulait dans la maison de la fiancée. Elle durait en général une semaine, parfois même 15 jours. À de nombreuses reprises, l'Écriture compare la relation d'amour entre fiancés à celle qui lie l'Éternel à son peuple ou Christ à son Église. En fait, la première n'est qu'un pâle reflet de la gloire et de la beauté de la seconde. L'Église est fiancée à Christ. De plus, Christ a payé pour elle la dot. Il a rejeté sa fiancée. Nous vivons en ce moment l'intervalle séparant les fiançailles du mariage qui va de l'ascension du Christ jusqu'à son retour. Pendant cette période, la fiancée doit se préparer. Elle se revêt d'un fin lin éclatant et pur. Ce fin lin est le symbole de ses œuvres justes, de son caractère sanctifié. Ses actes sont purifiés par le sang de Christ. N'oublions pas cependant que cette sainteté lui est donnée par la grâce souveraine de Dieu. À la fin de cette dispensation, le fiancé, accompagné des anges glorieux, viendra chercher son épouse, l'Église, et la fête des noces aura lieu. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Mais la fête ne durera pas une ou deux semaines seulement. Elle durera éternellement. Elle est l'aboutissement de tout ce que Christ a entrepris pour s'unir à son épouse, l'Église. Elle est le but et la raison de l'intimité, de la communion toujours plus intense qui unissent le Rédempteur et les rachetés. En Christ, l'épouse a été choisie de toute éternité. Tout au long de l'Ancien Testament, les noces ont été annoncées. Puis, le Fils de Dieu s'est fait homme et les fiançailles ont eu lieu. La dot a été payée au calvaire. Puis, après un certain temps, qui aux yeux de Dieu ne dure qu'un court moment, le fiancé revient. Les noces de l'agneau sont venues. L'Église sur terre et l'Église dans le ciel soupirent après ce moment. Alors, nous serons avec lui pour toujours. Ce sera une communion sainte, bénie et éternelle, le plein accomplissement de toutes les promesses de l'Évangile. Mais au cours de la dispensation présente, qui est ce temps de la séparation, heureux ceux qui sont irrésistiblement appelés au festin des noces de l'agneau, et non simplement invités. Ils seront heureux avant même que le repas commence. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, authentiques et vraies. Rempli d'allégresse, l'apôtre tombe aux pieds de celui qui lui annonce ces choses et il veut l'adorer. L'a-t-il pris pour le Seigneur lui-même? Quoi qu'il en soit, cet envoyé, l'être vivant ou un ange, l'en empêche disant « Adore Dieu ». Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'esprit, le contenu de toute la prophétie, c'est-à-dire la Bible entière, est le témoignage de Jésus. Le témoignage qu'il nous a révélé et la révélation qu'il nous a donnée nous interdit d'adorer quelconque, si ce n'est Dieu. Il faut saisir ici. Le ciel, dans l'éternité, Dieu a placé ses élus en Christ. Donc, ils étaient connus d'avance. Quand Christ est venu, c'était les fiançailles. Les fiançailles, on l'a dit tantôt, la période de la fiançaille, c'est jusqu'à la période de la Pentecôte, jusqu'à son retour. Donc, on est dans la période des fiançailles. Les noces, c'est quand il va revenir et tous ceux qui ont été appelés vont pouvoir participer à cela. Alors, quand on voit la dot aussi, quand on dit que la dot, c'est ce qu'il a payé au calvaire, il n'y a pas un cadeau humain, aussi riche soit-il, qui peut arriver à la cheville de ça. C'est ce que Christ a payé pour nous, pour nous avoir. Il a payé extrêmement cher. Il s'est humilié. Il a souffert énormément à cause de tout cela. Donc, on peut regarder que, dans le fond, toutes les personnes de la Trinité sont incluses dans le mariage. Le Père nous donne son Fils comme notre époux et donne une épouse à son Fils. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce qu'il nous a gratuitement accordée en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés et selon les richesses de sa grâce. Donc, à quelque part, c'est une œuvre trinitaire, le mariage. Il y a Dieu le Père qui est impliqué là-dedans, et aussi le Fils dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église, qui s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On a aussi la part du Saint-Esprit, Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Quelle belle chose à nous dire, nous. Quand on est scellé, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre un salut. Enseigner la perte du salut, là, c'est pas biblique. Il faut vraiment s'éloigner de cela. Vous avez été scellé du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Il y a des choses qu'il faut nous rappeler, ce que les Écritures disent par rapport à l'amour de Jésus pour nous. Ça se dit dans le premier épître de Jean, quatrième chapitre, verset 19. « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Pourquoi on aime Jésus aujourd'hui, alors qu'avant d'être sauvé, la Bible dit qu'on est en inimitié contre Dieu. Inimitié, c'est ennemi. Il est notre ennemi. Mais parce qu'il nous a aimés le premier, maintenant, nous, on est capable de l'aimer. Christ nous a aimés alors que nous étions pécheurs, ennemis de Dieu et méritant la condamnation éternelle. Imaginez, on est dans une situation, moi je me souviens quand j'ai été sauvé, là, ça fait quelques années, on est dans une situation que si le Seigneur m'avait laissé là, puis que j'aurais décédé dans cet état-là, un accident, n'importe quoi, je m'en allais directement dans le lac de feu pour l'éternité. Il vient te chercher alors que tu es ton ennemi. Juste nous autres, là, on n'est pas fait, on n'aime pas nos ennemis, nous autres, en général. Nos ennemis, on lui paye la traite, comme on dit. On était son ennemi, on était un ennemi juré, comme on dit. Il est venu nous chercher là, dans notre rébellion, dans notre misère. Il faut apprécier davantage. Alors, nous n'avons rien apporté à Christ que notre péché. Oui, quel cadeau, hein? Quel cadeau on a fait. On n'a rien qu'à apporter que notre péché. Alors que nous étions encore rebelles, infidèles, impurs, submergés par l'idolâtrie et l'adultère spirituel, Christ nous a aimés sans limite et avec une intensité dépassant nos plus folles imaginations. Quand on parle de l'amour de Christ envers nous, on n'a pas d'idée jusqu'à quel point. Tu sais, des fois, un père ou une mère qui a des enfants, ils en font-tu des bêtises, les enfants, au cours d'une vie? J'en ai eu, je sais ce que c'est. Mais, c'est-tu à cause qu'ils font une bêtise ou qu'ils font vraiment des affaires, des fois, là? Veux-tu bien dire qu'est-ce qu'elle a pensé? Veux-tu bien dire qu'est-ce qu'il a pensé? Après que c'est arrivé, là, l'aimez-vous encore? On l'aime encore. Mais pensez-vous le nombre de bêtises que vous avez fait comme chrétien depuis que vous êtes chrétien? Que vous n'en avez pas fait des murs puis des pommures, comme on dit? Il vous aime encore. Mais nous, l'amour qu'on a pour nos enfants, même après qu'ils ont fait des bêtises, ça se compare aucunement avec l'amour de Christ envers chacun. Un amour infini, c'est que ça n'a pas aucun... Ça n'a pas de fond. Il nous aime. Ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre de faire n'importe quel péché et dire « Ah, il nous aime tellement qu'il va venir nous chercher. » Mais dans le fond, quand on lui appartient vraiment... Prenons un exemple bien concret de la Bible. David, le chantre de Dieu, il avait des super de belles qualités, David. Il a fait un péché grave. Le Seigneur aurait pu le laisser tomber. Mais non, il ne l'a pas laissé tomber, il a continué à l'aimer. Et c'est ça, la même chose pour nous autres, même pour des péchés extrêmement graves. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il nous aime trop. Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et Romains 8, versets 35 à 39, ça c'est un des beaux passages des Écritures qui veut nous rassurer quand on commence à avoir des doutes. Là. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi. Et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-tu intéressant à lire ces choses-là? Rien ne va nous séparer de l'amour de Christ, si on lui appartient vraiment. Et là, il faut vraiment mettre le si. Si on lui appartient vraiment, tu vas te rendre au bout. Tu as pris un point que tu es un pécheur rebelle en inimitié contre lui, et il va te transformer par le Saint-Esprit, par la sanctification, tranquillement, jusqu'à ce que tu te rendes au ciel. Tu vas te rendre là. Il dit que rien ne peut nous séparer. Rien, l'affliction, la faim, les anges, parce qu'il parle des principautés, c'est les démons. Les démons, personne ne va y arriver. Il va te garder jusqu'à la fin. C'est-tu intéressant à lire? Mais hein, comme on dit. La deuxième idée qu'on va regarder, c'est que versets 8 et 9. Et là, ici, il parle de l'Église, il parle de nous. Il lui a été donné. Autrement dit, la sanctification, la préparation de l'épouse à la rencontre de dans son mariage ou aux noces de l'agneau, le Seigneur va nous avoir préparés. Il va nous avoir transformés. Il va nous avoir changés. Si depuis le début de votre conversion, il n'y a rien en vous qui a changé, là, je pose des questions. Parce que le Seigneur, il dit ici, il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, pur et éclatant. Car le fin lin, ce sont les justices des saints. Alors l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Alors, chose à remarquer, c'est que le verset 8 nous précise un fait très important. Le vêtement de la mariée lui a été donné par le Seigneur. C'est une grâce. On connaît toute l'image qu'on parle de, on a été revêtu de la robe de justice de Christ. De quoi on parle? C'est que Christ, quand il est venu sur la terre, il obéit parfaitement au Père, d'une manière parfaite, sans jamais manquer une seule fois. Et le Père nous voit comme si on avait fait, ça serait nous qui avions fait ça. Je vais regarder votre vie, là. Je ne sais pas si la vôtre, comment est-ce que c'est, mais moi, la mienne, ça ne ressemble pas à l'obéissance parfaite au Père. Là. Mais comment ça se fait que le Seigneur peut me voir comme si j'avais obéi parfaitement au Père? C'est parce que c'est la justice de Christ, c'est la robe de justice de Christ qui m'a été imputée, qui m'a été donnée. C'est important de réaliser cela. Alors, il y a deux interprétations qui sont données face à cette question-là de la justice des saints. Alors, il y en a un qui fait référence, un qui voit une référence à la justification, ce qu'on appelle la robe de justice imputée aux croyants. L'autre voit une référence à la sanctification, dont les actes des saints, après leur régénération, est inspiré par l'influence et l'œuvre du Saint-Esprit. Moi, personnellement, après avoir examiné les deux positions, je crois que c'est les deux. Dieu nous a imputé la robe de justice de Christ, nous l'a donnée, mais en même temps, quand il te sauve, il ne te reste pas dans l'état où tu étais pris. Il corrige toutes sortes de choses de ta vie, ton caractère, ton langage, tes gestes, la sanctification progressive. Donc, c'est ça que le Seigneur fait. Alors, le verset 9, lui, il nous dit « ceux qui sont appelés ». Les noces de l'agneau sont venues, mais il nous parle de ceux qui sont appelés. Très intéressant. Le verbe est au passif. Ça veut dire que t'as été appelé par quelqu'un. Par qui? L'appel irrésistible, il se fait par qui? Par le Saint-Esprit. Alors, ça dit dans Romains 11, 29, « Car les dons et la vocation de Dieu sont irrévocables. » Ici, c'est important de réaliser quelque chose. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on parlait de vocation. Ah, lui, il a la vocation, il va faire un prêtre, il va faire une sœur, il va faire un frère. Mais ici, le mot vocation, il veut dire appel. Alors, on pourrait traduire par appel, on serait correct, car les dons de Dieu et l'appel de Dieu, quand Dieu t'appelle pour faire de toi un chrétien, ça dit, ils sont irrévocables. Ça veut dire quoi, irrévocables? J'ai déjà fait de l'assurance vie, moi. Quand on mettait quelqu'un comme bénéficiaire. Quand tu mets un bénéficiaire irrévocable, ça veut dire que même après que tu l'as signé ton contrat, même si tu veux le changer, tu peux pas. T'es fait, tu l'as signé. Mais ici, t'es en train de dire que Dieu, les dons qu'il nous fait, le don du salut, et l'appel qu'il nous fait pour devenir chrétien, c'est irrévocable. Après qu'il l'a fait, tu es appelé, tu vas rester appelé, et tu vas t'en retrouver. Donc, le mot vocation là-dedans, c'est vraiment, ça fait appel à l'appel irrésistible de Dieu au salut. Je vous ai mis un petit dessin que je considère très important, parce que quelqu'un qui comprend ce dessin-là, il comprend un très grand morceau de ce que c'est le salut en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a bien du monde qui enseigne plus ça. Là. On l'appelle la chaîne d'or. Pourquoi? Parce qu'elle a 5 maillons. Et là, je vous le lis dans le texte, dans Romains 8. On va lire le texte, puis après, on va faire le lien avec les 5 maillons. On appelle les anglophones appellent ça « the golden chain of redemption » or « the golden chain of salvation ». Autrement dit, de voir les liens qu'il y a entre l'appel de toute éternité, le fait que tu étais prédestiné, le fait que tu vas te rendre jusqu'au bout, etc. Alors, on lit dans le texte, et après, la chaîne vient illustrer qu'est-ce qui est dit dans les versets. Romains 8, versets 29 à 30. Ici, il parle des élus. Il parle des personnes qui ont connu le salut, qui ont reçu le salut par grâce souveraine de Dieu. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, et ça fait référence à ce qu'on a vu tantôt dans Éphésiens. Dieu, de toute éternité, avait choisi un nombre précis d'hommes et de femmes qui, au cours de l'histoire, deviendraient des croyants en Jésus-Christ. Et ce nombre-là, il ne peut pas être modifié. Si tu es un élu, tu vas venir au Seigneur. Ceux qu'il a connus d'avance, donc il t'a connu depuis toute l'éternité, il les a aussi prédestinés. Le mot prédestiné, c'est que Dieu a déjà prévu l'endroit où tu vas finir tes jours, où tu vas passer l'éternité, si tu veux. Il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, si tu étais choisi de toute éternité, puis que tu es prédestiné à la vie éternelle, un jour, tu vas recevoir l'appel du Saint-Esprit. L'appel irrésistible. Irresistible grace. Et ceux qu'il a appelés, ça, c'est intéressant. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ici, la chose la plus importante à remarquer, c'est que tous les verbes sont au passé. Et là, il parle de quelque chose de futur, puis il en parle au passé. Il faut saisir. Il les a aussi justifiés. Qu'est-ce que ça veut dire, déclarer? Il les a justifiés. Il les a déclarés justes. Comment Dieu pouvait dire de chacun d'entre nous qui sont des pécheurs, comment Dieu peut-il dire de toi que tu es un juste? C'est-tu parce qu'il a regardé tous les gestes que tu as faits dans ta vie, là, il dit, ah oh, oui, il n'est pas trop pire, il a de l'allure. Il les a justifiés, ça veut dire que tous les péchés que tu as commis, Dieu a dit, je lui pardonne, mais pas sur le fait que je lui pardonne librement, sans aucune raison. Il les pardonne à cause de la personne de Christ, à cause de l'œuvre de Christ. Donc, quand on croit en Jésus, on croit que le Père a jugé la punition qu'on aurait dû avoir, il l'a jugé en son Fils. Et ça, on n'a pas aucune idée jusqu'à quel point c'est profond, là. On aurait dû aller en enfer pour l'éternité. Il a accepté de subir le châtiment. Ce qu'on aurait dû subir en enfer, il a accepté de le subir à notre place. Et non seulement ça, si ça aurait été juste ça, ça n'aurait pas été suffisant, parce qu'il faut aussi la justice, c'est justifié, ça veut dire tes péchés sont payés, tous, quand on est véritablement croyant, puis qu'on saisit ça, tes péchés que tu as faits depuis ta naissance, même celui qui avait été fait en Adam, ceux que tu as fait durant toute ta vie, en pensée, en parole, en action, en omission, tous sont tous payés. Même actuellement, aujourd'hui, si vous avez péché, là, il est fort probable que vous l'avez fait. Bien, ça, c'est payé aussi. Justifié. Donc, quand il est venu sur la terre, lui, Jésus, il a mené une vie de parfaite justice, donc de parfaite obéissance à la loi de Dieu toute sa vie, sans avoir manqué une seule fois. Et la parole nous dit que si on croit en Jésus, tous nos péchés ont été mis sur Jésus, jugés sur Jésus, parce que lui a accepté de prendre notre punition. Mais en même temps, on reçoit la robe de justice de Christ. Ce que Jésus a obéi sur la terre, c'est comme Dieu nous le donne, comme si on l'avait fait nous-mêmes. On s'en rend compte. Il les a aussi justifiés, mais la dernière partie est très intéressante. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le verbe est au passé. Il parle de l'avenir. Il les a glorifiés. On n'est pas encore glorifiés, là. On est glorifié quand on traverse le bord. Et il parle de tous ces verbes-là, sont tous reliés. C'est pour ça qu'il appelle « the golden chain », c'est une chaîne d'or. Donc, à quelque part, si on a été choisi à toute éternité, on a été prédestiné à la vie éternelle, on est appelé par le Saint-Esprit, et ensuite on est justifié à cause de l'œuvre de Jésus-Christ que je viens de vous expliquer. Et ensuite, il nous dit qu'on est glorifié. C'est déjà passé, parce que Christ est déjà au ciel, puis lui, ce qu'il a fait, là, c'est réglé. Fait que, enseigner la perte du salut, c'est à mon avis, c'est grave. Alors, la petite chaîne, là, vous voyez, il y a 5 maillons. Le premier maillon connu d'avance, puis c'est pas des affaires inventées par l'homme, là, c'est basé sur Romains 8, 28 à 30. Connu d'avance, prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Ça veut dire qu'on est déjà glorifié. Notre salut, là, est pas... Ça va dépendre comment tu vas te comporter. C'est sûr que si quelqu'un se dit croyant, puis qu'il vit une vie tout croche, peut-être que ça démontre tout simplement qu'il ne l'est pas sauvé. Mais normalement, si quelqu'un mène une vie chrétienne normale, il est déjà assuré de son salut. Pourquoi, moi, je me souviens d'avoir déjà eu des discussions avec des catholiques qui disaient, « Ben oui, non, tu ne peux pas savoir ce que tu vas avoir dans l'avenir, on ne le sait pas, on va le savoir jusqu'à quand on va traverser. » Non! Puis là, tu sors des versets, tu y montres, regarde, c'est marqué. Tu sais d'avance où tu t'en vas. Hey, ça a l'air prétentieux aujourd'hui de dire ça. Moi, là, je sais que si je descends chez nous, là, puis j'ai un accident en descendant, paf! Puis je descends. Je suis sûr que je m'en vais. Je sais que je m'en vais. J'ai aucun doute parce que Dieu me le dit. Je le crois. C'est-tu extraordinaire, ça? C'est pas extraordinaire, je me demande que ça nous prend pour qu'on s'émerveille. Et là, après ça, il veut nous dire que toutes ces choses-là, c'est pas juste des inventions humaines. Il veut nous dire que c'est le bonheur éternel et la vérité de Dieu. Et il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Tout ce qu'il vient de dire, là, ça, c'est Dieu qui parle. Hey, aujourd'hui, là, je veux juste vous partager ça. On regarde autour de nous, le mensonge, il est-tu là ou s'il n'est pas là? On est submergé, on est enterré dans les menteries. Les politiciens mentent, les hommes d'affaires mentent, tout le monde ment autour de nous, c'est épouvantable. Il vient un temps qu'on ne sait plus qui croire, parce qu'il n'y a plus personne qu'on peut vraiment leur accorder la confiance. Mais Dieu, pour soi, pour rien, qui finit, il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Sais-tu, moi là, quand je veux me rassurer, là, je m'en vais pas lire des articles sur Internet, ça me décourage bien souvent. Quand j'ouvre la parole, je m'en vais dans les psaumes. Disons les psaumes 145 à 150, des psaumes de louange pure. Ça rassure. Parce que je sais que tout ce qui est dit là, c'est toute la vérité, rien que la vérité. C'est... Aujourd'hui, le mensonge, c'est épouvantable comme ça existe partout. C'est décourageant. Mais quand on lit un texte comme ça, qu'est-ce que la parole nous dit? C'est que, oui, ça, tu peux être fier là-dessus. Alors, on va arrêter là aujourd'hui. Je finirai la prochaine fois.